votre église, vous pouvez dérouter l'absence à votre église, mais à Chicago, dans l'église de Bélotric, une église où il y a un peu de monde, 26 000 personnes. Alors ce matin, on était un petit peu perdus. Maintenant, on est très content d'être là avec vous. On est allé pour la préparation, vous le savez, du sommet mondial du leadership qui aura lieu au mois de novembre. Et cette semaine s'est passée en deux temps, un premier temps de formation et d'information pour tous les organisateurs. Nous étions plus de 700 organisateurs venus du monde entier pour préparer chacun son sommet mondial dans chaque pays. Alors l'Éthiopie, le Ghana, le Kenya, la Mongolie, le Brésil, tous ces pays étaient représentés. Et ça représente quelques centaines de milliers de personnes qui vont participer. Alors on parle de 350-400 000 participants d'ici l'année prochaine, puisque ce que nous avons vécu dans un deuxième temps, c'est la conférence qu'on va aussi donc, passer ici en vidéo. Et nous vous en parlerons davantage dans un certain temps. Vous avez d'ailleurs des liens par la sortie, si vous voulez encore vous inscrire pour le sommet mondial. Il n'y a pas de souci, il reste encore de la place. Donc, un temps de formation, puis ensuite la conférence proprement dite, à laquelle ont participé 10 000 personnes. Ce sont des personnes qui étaient là, des leaders, des responsables, des chefs d'entreprise, mais aussi des présidents d'associations, tous ceux et toutes celles qui s'y étaient perfectionnés dans la conduite, dans le leadership, dans la gouvernance. Et vous le savez, lorsqu'un leader s'améliore, tout le monde autour de lui s'améliore. Quand un pasteur avance et progresse, c'est toute l'église qui progresse. Et si le pasteur ne progresse plus, l'église n'avance plus. Voilà. C'est un peu le principe sur lequel est basé le sommet mondial du leadership, l'idée de progresser avec le Seigneur dans sa parole et avec les expériences. Et donc, on vous transmet toutes les mêmes salutations de nos frères et sœurs américains, de l'Ivotric et de la région. Le thème de ce matin, Dieu essuie nos larmes. J'ai eu à cœur de partager ce temps avec vous, sachant qu'il y a dans notre assemblée à nouveau un temps particulier et difficile à vivre, des deuils qui se succèdent. Et vous parlez de cela pour vous encourager et réconforter le cœur à tous. Parce que quand quelqu'un souffre, tout le monde souffre. La Bible dit quand un membre souffre, tous les membres souffrent. On est solidaire des difficultés, des souffrances des uns et des autres. Alors les pleurs, les larmes font partie de notre existence. Et je voulais vraiment vous encourager. Vous qui traversez une saison un peu humide. Et avant d'aller plus loin, je me prends simplement de moi sur la vie et qu'il se passe quelque chose ce matin et que Dieu puisse toucher notre cœur. Nous sommes rassemblés aujourd'hui devant toi, Seigneur. Tu connais nos fardeaux, nos soucis, tu connais nos peines, tu connais nos joies, tu sais tout. Et je prie, Seigneur, pour que, avec les frères et sœurs, avec nos amis, nous puissions vivre un temps de rapprochement avec toi et recevoir de ta part une parole de Dieu, une parole qui va nous mettre en marche et qui nous permettra d'être debout devant toi et avec ta grâce et avec ta force. Merci d'être avec ton Église et de la soutenir et de l'encourager. Amen. Alors, ce week-end est un week-end un peu difficile. Hier matin, nous avons, avec quelques jeunes qui étaient descendus jusqu'à Montpellier, nous avons cette semaine appris le décès de David Jiménez. C'est ce jeune de 22 ans pour lequel on a prié, qui était atteint d'un cancer l'automne passé et qui finalement est décédé. Et le groupe de jeunes était un peu partagé, puisqu'une équipe est partie sur Montpellier où avaient lieu les obsèques. Et hier après-midi, nous étions avec Laurent, avec Émilie, qui se mariaient, on a fêté le mariage. Et c'est ainsi qu'on voit bien que les joies et les peines cohabite. Et parfois, en tant que personne, ce n'est pas toujours facile parce qu'on accueille, on accompagne ceux qui souffrent dans le même temps et dans la même journée. Il y a des joies, il y a des peines, et on porte tout cela. Ce n'est pas toujours évident. Mais Dieu est avec nous dans ces moments difficiles, dans ces moments que nous traversons. Et David Jiménez a permis aux jeunes, il y a quelques mois, et c'est une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube, et le thème de son message qui parlait aux jeunes, c'était celui-ci, croire au cœur de la tempête. Et c'est une histoire qui se trouve dans Daniel chapitre 3, et au travers de laquelle il explique à tous les jeunes qui étaient rassemblés ce soir-là, partir de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont les trois amis de Daniel, qui ne s'étaient pas inclinés devant la statue du roi, et qu'on a jeté dans la fournaise. À la suite de cela, et avant d'être jeté, ces trois hommes ont dit : Sache au roi que notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais s'il ne le fait pas, ça ne va pas rien. Et David était un témoignage pertinent pour ces jeunes, et je veux lui rendre hommage ce matin. Sa foi lumineuse qui était le fruit d'une relation personnelle avec Dieu. Il m'a beaucoup demandé parce qu'il était vraiment de cette foi et il a vécu pour Jésus. Il a vécu pour lui et tous ceux qui l'ont connu peuvent le dire. Notre Dieu est capable de nous délivrer, mais s'il ne le fait pas, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Alors il y a toutes sortes de larmes. Il y a des larmes de joie, des larmes de rire, mais aussi des larmes de deuil, de tristesse, de déception, de solitude, des larmes de désespoir. Parfois des larmes de repentance. Des larmes. Et dans ce contexte, Jésus a une parole assez révolutionnaire. Lorsqu'il débute son ministère, il est entouré d'une grande foule et il va sur cette montagne. Et il dira ces paroles fortes qu'on appelle les béatitudes. Et parmi ces paroles, au chapitre 5 de Matthieu, verset 4, il dira : Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux. On peut traduire béni, les Anglais disent blessé. Les Allemands traduisent félicité, bienheureux. La version souveraine qui nous parle d'un contexte d'engagement dira : On réfléchit. Ceux qui pleurent, car ils seront consolés. En marche les endeuillés, car ils seront réconfortés. C'est un message d'espoir, c'est un message d'espérance, c'est une perspective, c'est un avenir que Dieu nous donne. Oui, c'est possible de connaître le pardon de Dieu, c'est possible d'être réconcilié avec Dieu, c'est possible de vivre une relation personnelle avec le Seigneur au travers de laquelle il nous réconforte, il nous console. D'ailleurs, le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Ce n'est pas pour rien. Il nous encourage dans notre marche avec lui. Et ce matin, il est avec nous. Moi, j'ai confiance en celui que je prêche. J'ai confiance que ce matin, il fera tout près ton cœur, te relever, te renouveler, te donner les forces dont tu as besoin. Et tu ne peux pas en toi-même, mais dans tes propres forces, trouver les ressources nécessaires. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin. Alors, je demande un peu d'humilité, de s'incliner et de dire oui, Seigneur, je ne peux plus. J'ai besoin de ta parole, j'ai besoin de ta grâce. Et dans la parole de Dieu, il y a tant d'exemples qui nous montrent que celui seul qui a placé sa confiance dans le Seigneur a été secouru selon ses besoins. Et ce matin, nous ne sommes pas ignorants. Dieu n'a pas de favoris. Nous sommes tous sur son cœur et c'est chacun d'entre nous qui désire encore de lui. Alors, les larmes, elles sont produites par les glandes lacrymales qui sont placées au-dessus de l'œil. Les Grecs et les Romains pensaient que les larmes avaient un effet purificateur et libérateur. Alors, vous connaissez peut-être cette parole de M. Victor Popinot qui dit « pleure un bon coup », ça traduit bien. Il y a peut-être un peu de difficulté dans ça, mais en fait, ce ne sont pas les larmes elles-mêmes qui agissent comme si c'était un remède ou un baume miraculeux, mais c'est un processus. Alors, j'utilise un mot, un processus cathartique. les situations, les souffrances, les douleurs, les pressions de la vie font que nous emmagasinons tout ce poids, cette pression, cette tension, et qui a besoin d'être libéré. Alors, j'ai dit de la manière la plus simple possible. Les experts en relation d'aide parmi nous pourraient vous le dire et l'expliquer beaucoup mieux que je ne le fais. Un vieux psychothérapeute, Alexandre Lorraine, dira « Pleurer évite la spirale infernale des angoisses et de la dépression. » Alors, je vais m'appliquer un petit peu ce matin pour vous expliquer ce que c'est que la catharsis. Depuis quelques années, je viens aux États-Unis. Et à chaque fois que je partais pour les États-Unis, il y avait là comme une boule. Comme une boule. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et je ne comprenais pas. Alors, bien sûr, c'est lié à mon histoire. Mon père était noir américain et il m'a abandonné quand j'étais tout petit. Je ne l'ai jamais connu. Et quelque part, je me dis, c'est certainement lié à mon parcours et à mon histoire. J'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à ma mère, j'ai été sauvé, libéré, réconcilié avec Dieu, j'ai découvert mon Dieu, un Père céleste qui m'aime, et ça m'a donné mon identité, qui je suis aujourd'hui. Et je remercie Dieu pour cela. Mais chaque fois que je partais aux États-Unis, il y avait là comme une boule. Et les trois ans, au milieu de l'eau, je me suis levé et je vais laisser remonter un petit peu tout ça. Alors, il me semble qu'il y a des saisons dans notre vie. Et il y a des moments et des temps permis par Dieu pour évacuer tout ce qui est tension à Dieu. La vérité, c'est de quoi je parle. Et vous, les amis, je rêve et je me mets à sangloter. Ça n'a pas duré une minute, ça a duré une heure. Comme si j'avais vidé de cette tension intérieure. Et j'ai vécu une libération. Et après, on n'était plus la même. C'est vrai que quelquefois, enfin pas quelquefois, c'est toujours un peu où on se bute. Lorsqu'on est blessé, lorsqu'on se sent rejeté, on se carapace. Et quelquefois, c'est difficile, mais on s'endurcit. Et le fait d'avoir vécu ce temps de ce que les psy appellent la catharsis, ça m'a libéré, et ça a débloqué quelque part, ça a écarté, enlevé toute cette carapace. Alors, je le dis parce que c'est quelque chose de vécu, que j'ai vécu de façon très très forte, mais qui peut vous aider, qui pourra aider quelqu'un ce matin. Tu as besoin de vivre ce temps de catastrophe, tu as besoin de laisser remonter ces choses devant le Seigneur qui prépare cela et qui prépare un temps de libération pour toi. C'est possible d'être libéré, c'est possible d'être libéré de cette tension et cette pression. Et Dieu a fait grâce. Dans l'Ancien Testament, on a un exemple. C'est celui de Joseph. Pendant 20 ans, il était loin de sa famille, loin de son pays, loin de tout les siens. Et tout ce qu'il a emmagasiné comme tension, rejeté par ses frères, vendu par ses frères, trahi. Alors, accumulation sur accumulation. Et se retrouve dans une prison, injustement. Il faut encaisser, puis il a pardonné. Il a pardonné à ses frères, il a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal. Puis un jour, il sort, puis ses frères arrivent, il rencontre sa famille. Et là, il va se passer quelque chose. Il a le temps de catharsis. Il pleure. Et le texte biblique nous dit que toute la maison de Pharaon l'a entendu. C'est des cris, c'est des. C'est très fort. Il a été élu chef du gouvernement de Pharaon. Et il a été l'objet de la bénédiction de Dieu. Il a sorti de la prison et a fait de lui un leader pour nourrir les nations, l'Égypte, mais aussi tous les siens. Dieu est bon. Mais Jésus a vécu la même chose. Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, il nous est dit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait nous sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. La piété, c'est l'expression de notre amour pour Dieu. Il a eu pour lui des prières et des supplications. La supplication, c'est quand on prie pour soi-même, quand on prie pour ses besoins. Mais il y a eu aussi des cris et des larmes. Jésus était parfaitement Dieu, il était parfaitement homme. Et donc, comme il a eu une pression, à ce moment-là, il est dans Gethsémané, dans ce jardin, où il est dans un combat spirituel, donc il prie, mais en même temps, il est en train d'évacuer des tensions et des pressions terribles, puisqu'il a transpiré des gouttes de sang. Les médecins diront que quand on en arrive à ce stade, c'est qu'on est en train d'évacuer des pressions humaines. Et Jésus a été exaucé, il a vaincu la mort, il est vivant, il est ressuscité. Il a été exaucé, il n'est pas resté dans la mort. Alors la Bible nous parle de ce sens. La Bible n'est pas muette sur tout ce qui fait notre vie, notre quotidien, nos souffrances, nos douleurs. La Bible est un livre vrai. La Bible ne commence pas en disant il était une fois, en se terminant ensuite, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Non, c'est un livre vrai. Un livre qui parle de toi et de moi, un livre dans lequel on peut se retrouver, avec des histoires dans lesquelles on peut s'identifier. Elle nous parle d'hommes et de femmes qui ont pleuré. Il y a plus d'une centaine de textes qui nous parlent de larmes, de pleurs et de pleurer. Par exemple, Job, chapitre 11, verset 16. Job est un cas de figure. En une seule journée, il perd toute sa famille. Les enfants, il perd son bétail, il perd ses biens, il perd tout, tout petit. Et au chapitre 16, il nous a dit, mon visage est enflammé à force de pleurer, l'ombre de la mort est sur mes paupières. L'autre version dit qu'il était tout boursouflé. Son visage était déformé par le pleurage. Jérémie, dans les Lamentations, chapitre 3, écrit des torrents d'eau coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Elle a pleuré à cause de la situation spirituelle de son peuple, mais n'empêche que des torrents d'eau ont pleuré sur d'autres. Des hommes qui ont pleuré. L'apôtre Paul pleurait parfois en dictant ses lettres. Il écrit en 3, 18, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parler d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Puis Marie, la mère de Jésus, a pleuré. Elle a pleuré à la croix. Et prophétiquement, Simeon, le vieux croyant, venu pour la présentation, lorsque Jésus a été présenté au temple, prend Jésus en tant que bébé dans les bras, et prophétise sur Marie, et il dira, toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et c'est ce qui est arrivé. Alors la Bible ne nous cache rien. Elle est remplie d'histoires dans lesquelles toi et moi nous pouvons nous retrouver. Alors, quelques-unes comme ça, en pensant l'histoire de Naomi, une histoire très touchante. L'histoire de Naomi qui se trouve dans le livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Une histoire d'une famille contrainte de quitter son pays à cause de la famine. Alors, on est en pleine actualité. Le déplacement de population, le flux migratoire, ça a toujours existé. Les migrants qui s'installent dans le pays de Moab. Et en quelques années, Naomi perd son mari et perd ses deux fils. Elle se retrouve avec ses deux belles filles, elles sont trois. désemparé, découragé, désespéré. Alors il décide de retourner à Israël, au pays, et au moment où on les trouve, au chapitre 1er de Ruth, on nous dit, elle s'est mise à pleurer tout le temps. Et lorsque des amis la reconnaissent, Naomi lui dira, ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi Mara, Mara veut dire amertume, parce que mon cœur est rempli d'amertume, je vis bien les mains vides. Est-ce que c'est le temps? J'ai l'impression d'avoir les mains vides, le cœur vide, d'être peut-être amer à cause de ce qui se passe dans ta vie, autour de toi, les circonstances. Alors il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour cesser de pleurer. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, et un temps pour danser. Et la belle fille de Naomi, Ruth, elle s'est accrochée. Et on a dit à sa belle-mère, je ne te laisserai pas. Où tu iras, j'irai. Je t'accompagnerai, je suis avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Ruth était une moabite, une étrangère au peuple d'Israël. Mais c'était une femme de valeur. Elle se met en évidence ses qualités de travailleuse, fidèle. Elle s'occupe de sa belle-mère. Et lorsque son patron voit cette qualité de plus, il est ému, il est touché. Il va lui proposer mariage. Il se marie avec Ruth. Ensemble, ils ont un fils. Et les voisines de Naomi me disent ceci. Ruth au chapitre 4, cet enfant sera ton réconfort et le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que ce fils. Quel témoignage! Alors Naomi prend cet enfant et le prend contre elle, elle va l'élever. En fait, voyez l'image. Cette grand-mère qui a perdu son mari depuis très longtemps, qui a perdu ses fils depuis longtemps, il n'y a plus de possibilités d'avenir, plus de vision, plus de perspective, plus d'horizon. Elle prend ce fils dans ses bras. Comme pour nous dire, voyez, l'avenir. Il n'est pas notre perspective. Il est fils, elle le porte. Il s'appelle Obed. Obed veut dire serviteur. Obed, c'est le grand-père du roi David. Il est dans la lignée généalogique de Jésus. En fait, ce qu'elle porte, c'est l'espérance. C'est le serviteur qui va venir. Le serviteur par excellence, c'est Jésus. Il est dans la lignée. Il va venir. Et notre espérance est éternelle. Notre avenir, il est devant. Il n'est pas de notre passé. Et peut-être que pour quelqu'un, ce matin, il est temps de fermer la porte du passé. Ce n'est pas dans notre passé que nous allons trouver notre vie. Le garçon Obed, c'est l'image de celui qui va venir. Il était, il est. Une étrangère, c'est une moabite, mais elle est intégrée dans cette généalogie. On croit que c'est l'image de la grâce de Dieu, tout simplement. L'image de la grâce de Dieu. Dieu a essuyé les larmes de ses pauvres mères et leur a donné des larmes. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. On a une deuxième histoire aussi qui est une histoire très touchante, c'est l'histoire d'Anne, la maman de Samuel. Anne est une femme qui souffre de stérilité, et dans le premier chapitre de Samuel, on nous dit l'amertume de l'âme, l'amertume dans l'âme, elle pleure abondamment, elle est tellement affectée qu'il n'y a aucun son qui ne sort de sa bouche. C'est incroyable. Et le prêtre religieux qui est là à côté d'elle, dans le temple, va aggraver la souffrance, puisqu'il va lui dire. Il pensait qu'elle était ivre, mais il va lui dire va cuver ton vin. Alors il dit non, ne prends pas ta savon pour le faire. J'étais en train de répandre mon cœur devant l'Éternel. Et ce matin, je crois qu'il est temps pour quelqu'un de répandre son cœur. homme ne pleure pas. Merci. Un homme se pleure. Et nous en pleurons. Il pleure. Et nous nous embêtissons pas. C'est mauvais signe quand un homme ne pleure pas. Je dis parfois aux jeunes filles qui cherchent un mari, elle est bien. Observez-le. C'est important de le voir pleurer. Sinon, ça veut dire qu'il se répète. Quelquefois, il s'embêtit, c'est pas bon. Il vaut mieux se montrer vulnérable. Parce que dans un couple, on a besoin de montrer sa vulnérabilité. On a besoin d'être vulnérable. Alors, un jour, je vais pencher mon cœur devant l'Éternel. C'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler. En fait, elle a le cœur à cœur. Et parfois, dans notre vie de prière, on peut être tellement superficiel, tellement léger. Voilà. On peut passer quelques minutes le matin dans la Bible de prier, puis entrer dans ses journées. Mais tout ce que tu as eu, un véritable cœur à cœur avec Dieu. Regardez vraiment les yeux dans les yeux. C'est une expérience. Peut-être un jour, je prêcherai une image qui s'appelle le temps de Dieu. Mais c'est un message qui coûte très cher. Parce que c'est douloureux. C'est cœur à cœur avec Dieu. Et pourtant, c'est incontournable. Si tu veux guérir, si tu veux vraiment te consoler, si tu veux être fait. Quand il n'y a plus de réconfort et de consolation de la vie, ce matin, il n'y a pas de recette pour toi. Mais c'est un cœur à cœur, c'est un contact avec Dieu. C'est une connexion, comme on dit aujourd'hui, avec le ciel, qui peut nous libérer, nous approcher, nous bénir. Et puis, Anne est exaucée. Alors, dans ce cœur à cœur, il va passer quelque chose, puisque le texte biblique nous dit son visage n'était plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans ce temps-là, elle a vécu une connexion, elle a vécu une conviction profonde que Dieu a été à quelque chose. Elle a la certitude que ce ne sera plus comme avant. Et effectivement, elle rentre chez elle, quelques temps après, elle est enceinte, elle va accoucher d'un garçon auquel elle va donner le nom de Samuel. Et Samuel veut dire entendu de Dieu, ou bien exaucé de Dieu. Est-ce que tu sais que tes cris, tes larmes, tes pleurs sont entendus de Dieu? Un texte d'Éprouve vient de nombreux textes dans l'Éprouve. Un texte d'Éprouve dira il recueille les larmes quand même dans son doute. Dieu n'est pas insensible à nos douleurs. Au contraire, nos pleurs, nos cris, nos larmes trouvent une écoute auprès de lui. Et Anne va composer un chant de louange. Et elle dit, mon cœur se réjouit à l'Éternel, ma foi a été relevée par l'Éternel, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève le faible pour le faire vivre avec les grands. Quelle parole! Quelle parole! Et puis, on pourrait poursuivre quelques exemples concernant David à Cyclade. À un moment donné, David habitait dans cette ville et au cours d'une incursion quelque part, l'ennemi est venu brûler toute cette ville de Cyclade, en emmenant femmes et enfants. Et à un moment donné, un homme venu nous a dit que David, avec toute sa troupe, il y avait 600 hommes, 600 guerriers. David se met à pleurer avec toute cette troupe. On pleure trop jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la force de pleurer. Quelle expérience! Tout le monde pleure. Et après les pleurs, on cherche un coupable. C'est très bien. Un bouc émissaire. Et une plus de chagrin, donc voilà, qu'il est menacé de mort. Et de cette parole de verset 6 du chapitre 30, 1 Samuel 30, verset 6, il nous est dit, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors, l'apôtre Paul, quand il écrit ses lettres, il dira, entre autres, bien, toutes ces choses sont écrites pour notre instruction. C'est pour qu'on apprenne quelque chose. Pas seulement des histoires, mais ce sont des textes qui peuvent nourrir notre confiance, nourrir notre foi, s'appuyer sur Dieu, c'est-à-dire lui faire confiance. Ce qu'il a fait hier, il peut faire aujourd'hui, il peut faire demain. Il nous accompagne dans nos combats, dans nos luttes, dans nos difficultés. Il s'appuie sur Dieu. Il prie, il consulte Dieu et il se lance à la poursuite de l'ennemi. Parce qu'il y a un temps pour pleurer. Mais après, il y a un temps pour se lever, un temps pour agir. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est là que j'aime bien la version de André Chouraki, qui maîtrise bien l'hébreu. Il dit, ne pas oublier ce qui pleure, mais en marche ce qui pleure. Autrement dit, lève-toi, debout. Il y a un temps pour pleurer, c'est vrai. Mais il y a un temps aussi pour se relever. Alors Naomi n'a pas retrouvé son mari, ni ses enfants, mais elle était consolée par la venue de David ici a retrouvé ce qu'il avait perdu. En marche. Et puis Jésus a pleuré. Il a prié avec grand cri et avec le monde. En disant à Dieu, non pas ma volonté, mais que la tienne. Et le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35, Jésus pleure. On peut s'identifier à lui, mais lui s'est identifié à nous. Il est venu pour nous trouver dans nos souffrances, dans nos détresses, dans notre condition humaine, tout simplement. Et le plus fort du combat spirituel, c'est un ange qui est venu. Alors Dieu a toutes sortes de moyens pour venir nous réconforter. Là, c'est un ange. Et Dieu sait si à un moment ou à l'autre, on a besoin de quelqu'un pour être secoureux, accompagné. Toutes sortes de moyens. Un des moyens pour être réconforté, c'est le louange. C'est comme la question de la louange est un moyen pour être consolé, réconforté. Pourquoi? Parce qu'on se concentre sur la personne de Dieu, sur ce qu'il est, sur sa fidélité, sur sa bonté, sur sa grandeur. Ça nous aide. La parole de Dieu est une source de consolation et de réconfort. Le Saint-Esprit est une source de consolation pour nous et de consolation. Les dons spirituels nous encouragent. Mais il y a aussi l'Église, le corps. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Lorsqu'un membre se réjouit, tous se réjouissent. Et ton combat devient mon combat, ton joie devient ma joie, ta peine devient ma peine. L'Église n'est pas un lieu le plus usé, mais c'est un lieu où l'on porte les fardeaux les uns des autres. Et l'Église, en fait, elle se conduit à la première personne du pluriel, nous, et non pas Dieu, mais nous sommes ensemble. Pour porter ensemble les fardeaux des uns des autres. La foi biblique, elle se conduit à la première personne du péril. Et puis, on a quelques promesses. En vous disant, dans les ans Isaïe 25, verset 8, le Seigneur l'Éternel fera les larmes de tous les visages. Il fera disparaître de la terre la honte de son peuple. Oui, l'Éternel l'a déclaré. Le Psaume 30, verset 6, le Seigneur arrive, il pleure. Et le matin, l'allégresse, sur psaume 56, recueille les larmes dans ton livre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ce sont parfois des larmes dans le service et dans le travail pour Dieu. Psaume 126, verset 6, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses larmes. Alors ici, dans le réconfort et la consolation sont limités, mais sont. Le réconfort est limité, il est ponctuel. Mais Dieu prépare une consolation et un réconfort éternel. Et c'est là notre espérance. Écoutez ce qu'il dit dans Apocalypse 21. J'entendis une voix forte devant le ciel qui disait attentes de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute l'âme de leur Dieu. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni dame, ni crime, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. On prie pour la guérison, on prie pour que les malades guérissent. C'est ce qui a fait la force du mouvement de Pentecôte dans les communautés, les miracles, les guérisons, les dons spirituels. Mais le Seigneur de Dieu est là. Nous sommes là aussi pour nous accompagner les uns les autres, pour prier les uns pour les autres, pour porter les fardeaux des uns les autres. Mais en fait, ce corps-là ne peut pas le faire, il va se dégrader, il va mourir un jour. Et Dieu nous donnera un nouveau corps pour le faire. Nous serons changés, transformés, l'image de Jésus. Et c'est ce corps-là qui verra le ciel, qui verra le ciel. Prions ensemble. Merci Seigneur de venir ce matin parmi nous. Merci de pouvoir te confier ce qui est lourd, nos fardeaux, nos chagrins, nos peines. C'est l'âme de toi, c'est l'âme de ta vitesse. C'est peine. Merci parce que tu nous connais au plus profond de nous-mêmes. Ma prière pour mes frères et sœurs, c'est que tu permettes pour chacun, pour chacune, pour celles et ceux qui ont particulièrement besoin, un temps de compassion, un temps de cœur à cœur avec toi, un temps de fierté, un temps d'épanchement de leur âme devant toi, pour être secourus. Ô Seigneur, que les paroles de toi, les pleurs de peine, de tristesse, se transforment en pleurs de joie, parce qu'il y aura eu un attouchement du ciel, une parole de Dieu et tout peut changer. Merci pour ton secours, merci pour le Saint-Esprit, capable de venir nous visiter et faire ce que tu as fait pour nous. Son visage n'était plus le même. Capable aussi de nous encourager à la manière de David. Il prit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Merci pour ses récits, merci pour ses histoires, merci pour ces hommes et ces femmes qui ont su placer leur confiance en toi et qui sont des modèles et des exemples de confiance et de foi. Bénis ton Église en ce temps. Oui, nous passons par le deuil. Oui, nous sommes attristés. Oui, nous connaissons des circonstances dramatiques et douloureuses. Oui, nous portons les fardeaux les uns des autres. Mais nous ne sommes pas sans espérance. Notre avenir est en toi. Nous portons sur notre cœur, au bête, le serviteur Jésus, notre espérance vivante. Et c'est en lui que nous plaçons ce matin toute notre confiance et toute notre foi. Merci Seigneur de bénir ton Église en ce moment, de nous bénir personnellement, individuellement, de nous bénir en famille, mais de nous bénir aussi en Église. Et à toi, toute notre reconnaissance. Et tous ceux qui sont d'accord avec moi disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.